philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 22 avril 1988.
Ont donc repris la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que l'être au-delà des prédicaments? Puisque tous les prédicaments représentent des modalités particulières de l'être, il faut donc poser la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que l'être? Et nous avons essayé de comprendre comment cette interrogation nous menait nécessairement à la recherche de ce qu'il y a de premier, puisque l'interrogation du tiesti conduit toujours à chercher ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la signification même de ces modes de l'être. Ce qui conduit à l'induction de la substance. Une fois qu'on a découvert cette source, on revient à tous ces modes particuliers de l'être pour comprendre mieux la richesse fondamentale de la source. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et c'est la question posée ici. Pourriez-vous, dans vos réponses à la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», préciser ce que vous entendez par l'être de la quantité, l'être de la qualité. Le mot « être » n'a pas alors la pleine signification, c'est sûr. Il y a un dépassement des prédicaments qui nous fait poser ce qu'il y a de commun à toutes ces modalités particulières de l'être. Une fois qu'on saisit cette source, on revient à toutes ces déterminations particulières. Vous voyez, il y a un aller-retour, en quelque sorte. Il y a le dépassement, puis on revient sur les diverses modalités. Parce que quand on se pose la question « l'être de la qualité, l'être de la quantité », on essaie de comprendre comment l'être qui se donne de multiples manières, qui est dit de diverses façons. Chacune de ces façons, cependant, a quelque chose d'unique. Il y a une signification propre de la qualité comparativement à la substance. La substance est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de ce qui est, dans l'ordre de ce qui est en tant qu'être, donc dans l'ordre de l'être comme tel. Elle est principe, elle est cause, mais elle ne dit pas tout l'être. L'être se donne à moi tout de suite dans la complexité. Il se donne à moi dans le devenir. Puisque l'être se donne à moi dans le devenir et la complexité, ayant saisi ce qu'il y a de premier, je peux ensuite essayer de préciser quel est le caractère propre de la qualité. Alors, il y a toujours deux aspects, puisque toutes ces modalités de l'être, en dehors de la substance, sont complexes, sont relatives à la substance, et en même temps ont quelque chose de propre. De sorte qu'il y a toujours ce double regard sur la qualité et la quantité. Quel est l'être de la qualité? Puisque la substance est principe. La qualité est donc relative à la substance. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que la qualité prise en elle-même? Vous voyez, toujours, cet aspect concret et cet aspect plus abstrait. Blanc, blancheur. Pour toutes les qualités, vous avez ça. Vous cherchez la qualité concrète. La qualité existe toujours dans un sujet, dans une substance individuelle. Et elle qualifie cette substance individuelle. Mais je peux, ayant compris que cette qualité qualifie, chercher ce qu'elle est, ce par quoi elle qualifie. Comme blancheur par rapport à blanc. Et là, vous retrouvez toujours ce double aspect. Au point de vue signification, ce n'est pas deux significations. C'est la même signification, mais c'est la même signification sous deux aspects différents. Et ceci, c'est vrai de la qualité et c'est vrai de la quantité. Et c'est vrai de la relation. Vous voyez, quand vous dites « Pierre est intelligent », vous qualifiez Pierre. Ce n'est pas la même chose que de dire « Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ?» Vous avez donc les deux aspects, l'aspect quantitatif de la qualité, sa signification propre, et sa manière de qualifier, sa manière d'être attribuée. Pierre est intelligent. Oui, je crois que c'est toujours ces deux aspects que nous avons lorsque nous sommes en face de quelque chose de relatif, en face de quelque chose de complexe. Quand vous êtes en face de quelque chose de simple, vous ne pouvez plus. Et parce que vous pourriez vous poser la question, la substance, est-ce que c'est concret ou abstrait? Et c'est comme ça que Hegel parlera de la substantialité. La substantialité, ce par quoi la substance est substance. Est-ce que c'est légitime de le faire quand il s'agit de quelque chose de premier? Quelque chose de premier est indivisible. Il est source. Et donc, par lui-même, quelque chose au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc, la substantialité. Est-ce que c'est légitime de parler de substantialité? Quand vous saisissez la substance comme principe. Quand vous saisissez la substance comme substance seconde, vous pouvez parler de homme et humanité. Quand vous saisissez la substance comme substance première, c'est quelque chose de complexe. Alors vous pouvez chercher ce par quoi l'individu est individu, l'individualité. Mais est-ce que vous pouvez chercher la substantialité d'un principe? Si on cherche la substantialité, ça prouve justement qu'on n'a pas saisi la substance comme principe. Et qu'on est resté dans l'ordre des prédicaments. Pour saisir la substance comme homme, substance seconde, ou la substance première comme individu. Seul ce qui est relatif implique cette complexité et donc permet ce double regard. Tandis que ce qui est simple, ce qui est premier, ne le permet pas. Et vous ne cherchez pas ce par quoi un principe est principe. Puisque le principe est individuel. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Oui. Parce que si vous remontez à l'infini dans l'ordre des causes, vous relativisez la cause au moment où vous la cherchez. Là, c'est plus la cause. Relativiser le principe, c'est plus le principe. Un principe, par définition, est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc, ou vous le saisissez, ou vous ne le saisissez pas. Alors, maintenant, nous allons continuer, après ces quelques petites remarques, nous allons continuer le problème de la quantité. Vous vous souvenez, j'espère, Vu la quantité, chez Platon, chez Aristote, chez saint Thomas, je ne fais que souligner chez Occam, ce serait intéressant. Occam démontre au moyen de plusieurs arguments, dont le premier est que selon Aristote, aucun accident réellement distinct de la substance ne reçoit les contraires par un changement de lui-même. Or, si la quantité était un accident et sujet des qualités, il est manifeste qu'il serait changé en recevant la qualité. Et ainsi, par un changement d'elle-même, elle recevrait en elle les contraires, ce qui est contre l'esprit d'Aristote. C'est Occam qui dit ça. Donc, c'est la première chose que se propose Occam lorsqu'il aborde la question de la quantité, c'est de montrer l'opinion des modernes pour Occam, pour qui la quantité est une certaine réalité distincte réellement et totalement de la substance. Et que la qualité, de sorte que la quantité continue, est un accident intermédiaire entre la substance et la qualité. Accident dont on affirme qu'il est subjectivement dans la substance et qu'il est sujet de la qualité. De même que la quantité discrète est une certaine réalité distincte réellement des substances. Alors, Occam dit que ceci est contre l'esprit d'Aristote. Après avoir encore dûment démontré que le point n'est pas autre que la ligne, ni la ligne autre que la substance, et qu'il est vain pour la même raison de distinguer la substance du corps, Occam suggère cette autre opinion. L'opinion, qu'elle soit hérétique ou catholique, lui semble, selon l'esprit d'Aristote. C'est très intéressant, tu vois, c'est comme réflexion. Il traite toutes les opinions sur la quantité. Et quand il est devant cette opinion, il dit que cette opinion, qu'elle soit hérétique ou catholique, peu importe, elle est selon l'esprit d'Aristote. Il se propose, mais catholique ou hérétique, ce ne sont pas des catégories philosophiques. C'est évident. Tandis que selon l'esprit d'Aristote, c'est une catégorie philosophique. Il se propose de l'exposer sans la revendiquer pour lui-même, en insistant sur le fait qu'en exposant ses opinions, il parle non en son nom propre, mais selon ce qui lui semble être l'opinion d'Aristote. Et, très intéressant pour voir qu'au fond, le souci dominant d'Occam, c'est de rester dans l'esprit d'Aristote. C'est un commentateur d'Aristote. Cette opinion, du reste, est celle de nombreux théologiens, dit-il. Elle soutient que la quantité continue permanente n'est rien d'autre que la réalité en ayant une partie distante d'une partie. Donc, la quantité, c'est la réalité physique. C'est la réalité physique impliquant une extension. Or, la substance a une partie distante d'une autre situalitaire, au point de vue du situs. Et de même, la qualité, il y aura donc une quantité qui ne sera pas autre chose que la substance. Et une quantité qui ne sera pas autre chose que la qualité. L'argumentation, là encore, se réfère au sacrement de l'Eucharistie. Évidemment, ça a été le lieu de toutes les réflexions sur la quantité. Vous voyez, transsubstantiation et les espèces de mœurs. Et on comprend très bien que pour une chrétienté qui est plus théologique que philosophique. On prend des cas extrêmes, comme l'Eucharistie, pour essayer de réfléchir sur ce que c'est que la quantité. Le pain, après la consécration, au point de vue des apparences, reste exactement la même chose. Oui, c'est ça qui est intéressant à voir. On va voir tout à l'heure Descartes, c'est la même chose. Les pères jésuites ont tout de suite demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie à partir de sa philosophie. Et Descartes a commencé à faire un traité de l'Eucharistie. Alors c'est intéressant de voir chez Occam que tout le traité de l'Eucharistie tourne, tout le traité de la quantité tourne autour de cette réflexion sur l'Eucharistie. Sans doute, il est trop simple d'affirmer, comme on l'a fait, que Occam assimile tout bonnement la substance matérielle et l'étendue. Il dit que c'est une opinion selon l'esprit d'Aristote. Qu'elle n'est pas catholique, mais qu'elle est selon l'esprit, elle n'est pas catholique, puisque, au point de vue de la transsubstantiation, vous dites donc qu'il n'y a pas de transsubstantiation. Il y a transquantité. Même pas, la quantité ne change pas. Mais s'il reste un pas à faire entre la position d'Occam, qui admet encore les formes substantielles, et celle de Descartes, le pas sera vite franchi. Ce qui est clair en tout cas, c'est que pour Occam, la quantité n'est pas réellement distincte de la substance. Pour pouvoir dire encore qu'elle est un accident, puisque les philosophes, aussi bien que les saints, la considèrent comme telle, Occam distingue trois sens du terme accident. L'un strict, un autre large, et enfin un sens très large. Grâce à ces distinctions, Occam pense pouvoir et devoir affirmer à la fois qu'une certaine quantité n'est pas une réalité autre, réellement distincte de la substance, et que la quantité est un accident et un prédicament distinct de la substance. Il n'y a en effet aucun inconvénient à ce que la quantité soit un prédicament distinct de la qualité de la substance, bien que toute quantité soit réellement indistincte de la substance et de la qualité. Vous voyez comme c'est intéressant pour le traité des catégories. Bien que toute quantité soit réellement indistincte de la substance et de la qualité, car les prédicaments ne sont que certains prédicables et signes des réalités. Institués ad placitum, donc institués conventionnellement, ad placitum c'est conventionnellement, ce ne sont donc plus que des mots, voces, qui peuvent très bien être distingués sans signifier des réalités distinctes. Vous avez donc des prédicaments distincts qui signifient la même réalité. C'est ça le nominalisme. Hein, et là, vous le saisissez parfaitement. C'est au niveau des noms et non pas au niveau de la réalité. Au niveau des voces, comme ils diront. C'est pour ça qu'on l'appellera nominalisme. Parce qu'au fond, c'est les noms qui nous donne en quelque sorte certaines distinctions qui ne sont pas dans la réalité. Occam est dans ce texte parfaitement clair substance, qualité et quantité ne sont que des noms. Nomina. C'est très important parce que c'est la théorie qu'on retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est intéressant de voir quand Kant est le premier, tout en voulant être selon l'esprit d'Aristote, hein, et de distinguer très nettement les modes d'être. L'être de la quantité n'est pas autre que celui de la substance. Mais le nom de la quantité est distinct de celui de la substance. La quantité n'est donc plus qu'un nom, mais qui n'est pas synonyme du terme substance, bien qu'il distingue la même réalité. Bien qu'il désigne la même réalité, pardon. Parce qu'il signifie la substance en connotant l'extériorité de ses parties. Connotando ipsam aberré partem extra partem. Et la subtilité, hein. La quantité signifie la substance avec une connotation particulière. Et cette connotation particulière, c'est d'avoir des parties extérieures aux parties. C'est ça l'intérêt. Oui, c'est cette connotation qui est d'ordre logique. Du reste, la substance peut être sans extériorité des parties, et donc peut être sans être quantité, comme le corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez? Le corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie est une substance sans quantité, sans extériorité de partie. Vous voyez, j'espère toutes les confusions. Le corps du Christ, c'est un mystère dans l'Eucharistie. Il est selon un mode sacramentel. Et Occam regarde cela comme un argument pour montrer que la substance peut exister sans quantité. Et là, vous le prenez en flagrant délit, la main dans le sac. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, et c'est intéressant que ça tourne autour du mystère de l'Eucharistie. On ne peut donc pas dire que la substance, que substance et étendue sont rigoureusement identifiées chez Occam, bien que son argumentation à partir de l'Eucharistie n'ait pas de sens d'un point de vue purement métaphysique. Mais il serait intéressant d'analyser un chapitre des Summulae in Libros Physicorum dans lequel Occam montre que non seulement les parties de la matière sont présupposées aux parties de la forme substantielle et accidentelle, mais encore sont présupposées distantes, et que par conséquent, l'étendue ou la quantité n'est autre que la matière. On s'achemine vers Descartes. Vous voyez, bon, c'est une position subtile, mais ce que je voulais, c'est que vous compreniez ce qu'est ce nominalisme d'Occam. Là, vous le saisissez très bien. Du moins, j'espère. Vous voyez que la distinction est au niveau des voces, des voix, des noms, de ce que je dis, et non pas au niveau de la réalité. Et la preuve, c'est le mystère de l'Eucharistie. Donc vous supprimez le mystère. Hein? Puisque vous l'expliquez. Alors il y aurait aussi, c'est ça, c'est la position de Nicolas de Cuse. La position de Nicolas de Cuse, c'est un mathématicien devenu théologien. C'est un cardinal. Hein? Il a des positions très extraordinaires. Le nombre est le modèle de nos conceptions mentales. Et l'archétype. Et c'est au fond, si quelqu'un va voir des... L'âme elle-même est comme un nombre vivant. Et la pensée est une mesure vivante qui, en mesurant les autres, atteint à la plénitude de soi. Mais c'est des conceptions très modernes, ça. La pensée mesure. Et la pensée est la mesure de tout. Donc il n'y a de connaissance que par la mesure. C'est le positivisme. Je ne dis pas que Nicolas de Cus soit dans cette ligne-là, mais car le nombre de notre mince, de notre esprit, étant l'image du nombre divin qui est modèle des réalités et modèle des notions. Et le nombre divin, c'est le nombre d'or. Bon, au moins, comprenez que Nicolas de Cus, pour celui qui voudrait faire une étude un peu avancée sur la quantité, Nicolas de Cus est un modèle. Très, très curieux. Nicolas de Cus est un... Alors, il y a Suarez ensuite. Comme Don Scott, Suarez accorde à la division finie-infinie une place primordiale. Pour lui, la division de l'être en fini et infini est la meilleure optima, la meilleure division de la réalité, et la plus nécessaire. Elle est adéquate à l'être. Alors, vous voyez ça? C'est tout de suite le domaine de la quantité qui l'emporte. Puisque fini et infini, c'est la quantité. Alors, s'il n'y a plus de distinction entre substance et quantité, je vois très bien que la distinction primordiale de l'être, c'est fini et infini. Mais comment on arrive à Suarez? Et ça, c'est capital, puisque Suarez commande toute la scolastique décadente. Et Suarez commande Descartes. Et donc Suarez commande toute la pensée moderne. Alors c'est intéressant de voir que cette pensée moderne, elle est commandée par la quantité. Le déraillement se fait au niveau de la quantité. Et la distinction du fini et l'infini. Je vous l'ai déjà dit, la distinction du fini et l'infini devient la distinction majeure de toute la philosophie de l'ontologisme. Malebranche. Et puis Suarez. Et puis Descartes. Cette division, donc de l'être en fini et infini, est la première et la plus connue, non seulement en elle-même, mais aussi selon l'ordre de la doctrine. Bien que la division de l'être en substance et accident, ou d'autres semblables, qui sont plus proches de nos sens, soit par le fait même plus facilement connus de nous. C'est énorme. C'est Suarez. La division de l'être en fini-infini est plus difficilement atteinte et explicitée par nous, parce qu'elle induit que Dieu est, il y a une essence, une entité illimitée. Alors soulignez induit. Vous voyez cette chose extraordinaire. Il ne s'agit plus d'une démonstration de l'existence de Dieu, mais une induction. Parce qu'elle induit que Dieu est, il y a une essence ou une entité illimitée. Donc, c'est bien tout égal est là. Ça qui est intéressant. Une fois que vous transposez la distinction du fini et de l'infini dans l'ordre de l'être, vous pouvez induire Dieu. Puisque l'être doit être infini, et que toutes les réalités que vous voyez sont finies, donc c'est bien ça, il y a un être infini qu'on appelle Dieu. Mais il est induit à partir de l'être. Puisque l'être est fini, infini. Donc une fois que vous saisissez l'être, Oui, c'est le fini, la finie. Et donc, vous saisissez Dieu. C'est très imaginatif. Hein. C'est très intéressant de voir ça. C'est capital, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ce domaine de la quantité, c'est un tremplin extraordinaire de voir ça. Parce que pour Aristote, c'est net, fini et infini, c'est quantitatif. Saint Thomas, lui, va transposer la distinction fini-infini dans l'ordre de l'être, mais pas directement, analogiquement. Et on en fera quelque chose de direct à partir de Don Scott. À partir de Don Scott, l'infini devient l'intuition dominante de l'intelligence humaine. Et puis, il faut quand même un certain... pas un certain culot métaphysique pour arriver à dire ça. Réfléchissez là-dessus, parce que ça vaut la peine, au point de vue tournant de Suarez, hein, que la distinction de l'être, ce qui est en substance, accident, est une distinction au niveau de nos sens. La distinction, au contraire, infinie, est fini, beaucoup plus difficile, et elle a ce privilège énorme de permettre une induction, c'est dit, une induction par rapport à l'existé de Dieu. Puisque ce qui est est fini, infini. Dès que vous saisissez ce qui est, vous saisissez l'infini. Donc vous saisissez Dieu. Vous induisez Dieu. Alors voyez, réfléchissez là-dessus. Fini, infini, distinction de l'imagination. C'est l'imagination qui saisit le fini, l'infini. Ici, les sens, substance et accident. Pourquoi ? Parce qu'il demeure devant la substance première, le ceci, qui s'indique par le doigt, ceci. Et l'accident, qu'on saisit aussi par les sens. Donc c'est une distinction qui se situe au niveau de l'expérience. Tandis que fini infini se situe au niveau de l'imaginaire. Donc c'est beaucoup plus intérieur. Et il ne dit pas que c'est imaginaire, pour lui, c'est au niveau de l'intelligence. Alors regardons Descartes, puisque quand même, hein, même si on n'est pas cartésien, on doit connaître Descartes. Pour notre philosophie de l'Occident, l'Orient a l'avantage de passer au-dessus de Descartes. Et dans la mesure où l'Orient est en relation avec l'Occident, nécessairement, il doit connaître Descartes. Parce que l'Orient se laisse contaminer actuellement, hein, par la philosophie occidentale. Il ne faut pas l'oublier. Les orthodoxes travaillent Heidegger. Ils font une théologie à partir de Heidegger. Donc ils se laissent occidentaliser par Heidegger, et donc par Hegel, et donc par Descartes. C'est peut-être comme ça, vous voyez, que le communiste se fera. Et oui, parce qu'une fois qu'ils seront dans l'erreur, ils s'apercevront qu'il faut en sortir. Ils s'apercevront que l'Église latine a lutté de ça depuis très longtemps, tandis qu'eux n'ont pas lutté. Vous savez, c'est comme les microbes de gens qui n'ont pas encore lutté contre ces microbes. Alors, ils les attrapent tous. Pour Descartes, la quantité est l'attribut essentiel de la matière. La substance corporelle se définit par l'étendue, comme la substance pensante par la pensée. Donc, vous voyez bien, l'étendue, la quantité, c'est l'attribut essentiel de la matière. L'étendue, c'est la substance matérielle. Examinant si l'on peut connaître quelque chose de certain concernant les choses matérielles, Descartes passe en revue les idées qu'il a des choses. La première est celle de quantité continue ou d'extension. Alors je vous donne ce texte dans la cinquième méditation. En premier lieu, j'imagine distinctement cette quantité que les philosophes appellent vulgairement la quantité continue, ou bien l'extension en longueur, largeur, profondeur, qui est en cette quantité, ou plutôt en la chose à qui on l'attribue. De plus, je puis nombrer en elle plusieurs diverses parties et attribuer à chacune de ces parties toutes sortes de grandeurs, de figures, de situations et de mouvements. Il n'y a plus pour Descartes de distinction entre substance matérielle et quantité. Pour lui, ceux qui prétendent distinguer la substance d'avec l'extension et la grandeur, ou n'entendent rien par le mot substance, ou forment seulement en leur esprit une idée confuse de la substance immatérielle qu'ils attribuent faussement à la substance matérielle. La substance matérielle, c'est l'étendue, la grandeur. Celle-ci n'est plus un accident distinct de la substance, mais la substance matérielle elle-même. La nature du corps consiste en cela seul, qu'il est substance qui a de l'extension. Descartes estime que la grandeur ne diffère pas de ce qui est grand, le nombre, des choses nombrées que par notre pensée. Oui, l'abstrait et le concret. Nombre, nombré. C'est très intéressant, ça. Très intéressant, essayer de bien saisir. Parce que cette question de la quantité chez Descartes est capitale, je crois. Je crois que c'est ça qui explique tout Descartes. Philosophe de la quantité. Alors, le philosophe de la quantité est de la négation de la quantité, vous comprenez ? Le spirituel, c'est le non quantitatif. Donc, de même, l'espace ou le lieu intérieur et le corps qui est compris en cet espace ne sont différents aussi que par notre pensée. Car en effet, la même étendue en longueur, largeur et profondeur qui constitue l'espace, constitue le corps. Le corps, c'est l'espace. Dans les règles pour la direction de l'esprit, Descartes affirme: quelle que soit la différence des sujets, c'est par la même idée que nous connaissons tous ces êtres, déjà connus, tels que l'étendue, la figure, le mouvement et d'autres semblables. On passe de l'idée générale de la grandeur à telle ou telle espèce de grandeur, l'étendue réelle d'un corps, abstraite de toute autre chose que ce qui est figure. Descartes précise, par étendue, nous entendons tout ce qui a longueur, largeur et profondeur, sans chercher si c'est un corps véritable ou seulement un espace. Inutile d'insister là-dessus, ajoute-t-il, puisqu'il n'y a rien que notre imagination perçoive plus facilement. Mais ce sur quoi il juge utile d'insister, c'est sur le fait qu'il n'entend pas par étendue quelque chose de distinct, de séparé de tout corps, de tout sujet. Du reste, il ne connaît pas d'être philosophique de cette sorte qui ne tombe pas sous l'imagination. C'est aussi très intéressant, oui. L'imagination est le lieu de la connaissance philosophique de la quantité. Et vous n'avez pas d'autre connaissance philosophique de la quantité qu'imaginaire. La quantité se connaît par l'imagination, quoi. Pas autrement. C'est le domaine de la représentation. Ne parlez pas de quantité en dehors. Je crois que c'est net quand on essaie de comprendre ce qu'il dit là. L'étendu pour lui ne doit pas se concevoir autrement que ce qui est étendu. C'est ce qui montre bien l'expression, donc l'étendu occupe le lieu où l'étendu est prise pour ce qui est étendu. Si l'on dit le corps a de l'étendu, le terme étendu distingue alors autre chose que le corps. Cependant, nous ne formons pas dans notre imagination deux idées distinctes, l'une de corps, l'autre d'étendue. Mais l'étendue n'est pas le corps. Donc, nous ne formons pas deux idées distinctes, l'une de corps, l'autre d'étendue, mais une seule idée d'un corps étendu. Enfin, quand nous disons l'étendue n'est pas le corps, nous prenons le terme étendu en un tout autre sens, auquel aucune idée particulière ne correspond dans l'imagination. Et l'énonciation de cette proposition est faite par l'intellect pur, qui seul a faculté de séparer des êtres abstraits de cette sorte. D'où l'erreur qui consiste à ne représenter par une véritable idée ce qui ne peut être compris que par l'imagination. Vous voyez comme c'est important ça aussi. Il y a des choses que vous ne pouvez saisir que par l'imagination. Donc ne cherchez pas à les connaître par l'intelligence, vous faites une erreur. D'où l'erreur qui consiste à se représenter par une véritable idée, à se représenter. L'idée ne représente pas. Seule l'imagination représente. D'où l'erreur qui consiste à se représenter par une véritable idée ce qui ne peut être compris que par l'imagination. Descartes insiste encore. Ça, c'est très intéressant, vous voyez, pour comprendre la position de Descartes et comprendre comment c'est l'imagination qui arrive à faire ça, à bloquer. L'imagination, c'est le domaine de la quantité, c'est sûr. Alors, de là à dire que la quantité ne peut être connue que par l'imagination, c'est très intéressant. Donc, tout notre monde physique ne peut être connu que par l'imagination. Et quand vous voulez le connaître par autre chose, c'est plus le monde connu, c'est le monde de la pensée, c'est le monde des idées. Je vous lis encore ce passage. Nous nous occupons donc ici d'un objet qui est étendu, ne considérant en lui absolument rien que l'étendue elle-même, et nous abstenant à dessein du mot « quantité », car il y a des philosophes assez subtils pour la désigner, elle aussi, de l'étendue. Pour la distinguer, elle aussi, de l'étendue. Donc il y a des philosophes assez subtils pour la distinguer, elle aussi, de l'étendue. On distingue quantité et étendue. Ce que nous ferons comme philosophes assez subtils. C'est assez gros, Descartes.